Mais Michel Poitevin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Chabot.
Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui. Ben écoute, on parlait de la journée internationale du chat. Je pose la question. Vous avez un chat, Michel?
Non,
Ah,
je
bon.
n'ai pas
Ben
de
c'est pas
chat.
très économique un chat parce que ça.
Je suis pas très chat, mais je sais qu'il y en a qui les aiment beaucoup.
Ah oui. Mais les animaux de compagnie, c'est pas très économique de toute façon. Hein. Quand des gens me disent, ah, c'est un investissement. Non, pas vraiment. C'est une dépense. J'avais lu
C'est une
quelques.
dépense, mais en même temps, dans plusieurs cas, je pense que ça apporte du bien aussi.
Ah, ben
Alors,
oui.
la dépense
Ben
vaut mieux.
oui. On dit que d'avoir un chien, là, faut prévoir à peu près 40 000 $ dans la vie de cet animal.
Ah
Car,
oui.
oui, nourriture, etc., etc. Bon, on va arrêter de parler d'animaux. On va parler de PayPal qui lance sa propre crypto-monnaie. C'est quoi ça exactement? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Bon, alors, PayPal, il y en a plusieurs qui doivent connaître PayPal. Quand on fait un achat sur eBay, souvent on nous offre de payer des transactions en utilisant PayPal. PayPal, c'est pas eBay, c'est associé étonnamment avec
Oups, on a un petit
eBay.
problème de
C'est
communication,
quoi
Michel. Ça coupe un petit peu.
PayPal?
Est-ce que c'est sur une ligne téléphonique cellulaire?
Là, on est sur WhatsApp. Je
WhatsApp. On va
m'excuse.
essayer de. Ouais, juste peut-être déplacer un peu. Des fois, c'est ça qui coupe. Alors, on parlait donc de
Ouais.
PayPal qui est un service de paiement qui a été longuement associé à eBay, c'est vrai, mais que tout le monde connaît finalement, parce que si on l'utilise beaucoup à PayPal.
Exactement. Puis quand on a un compte PayPal, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut y associer un compte bancaire ou bien notre carte de crédit. Puis lorsqu'on paye par PayPal, ils nous disent, OK, voulez-vous payer avec votre compte bancaire ou votre carte de crédit? C'est comme ça que ça fait. Puis on peut même déposer de l'argent. Hein. Des gens se servent de PayPal pour transférer de l'argent, par exemple, à de la famille dans un autre pays. Donc, faire des transferts. Comme ça, on peut utiliser notre compte PayPal. Donc, c'est vraiment comme un compte bancaire qui sert à payer des comptes ou transférer de l'argent. Je vais peut-être juste mentionner une petite parenthèse. PayPal a été fondé au début des années 2000, si je me souviens bien, par, entre autres, Elon Musk,
Ouais, notre vilain préféré,
qui
oui.
Exactement. Et puis, bon, Elon Musk n'est plus associé à PayPal, mais quand il l'a vendu, il a pris l'argent, puis il a démarré SpaceX. Bon, on s'éloigne un peu, là, mais c'est
Mais non,
juste faire un petit
ça met un peu
historique.
de contexte à tout ça. Alors, pourquoi créer une crypto-monnaie PayPal?
Bien, la monnaie numérique, ça permet de faire des transferts ou des règlements, des échanges pratiquement sans friction. On n'a pas besoin de passer par le système bancaire pour payer quelqu'un ou lui envoyer de l'argent. Donc, ça facilite beaucoup les paiements puis les transferts dans le monde virtuel. C'est sûr que nous, si on va à l'épicerie, est-ce qu'on a besoin d'une monnaie numérique? Non, mais si on avait de la famille, je ne sais pas, au Guatemala, puis on voulait envoyer de l'argent, des fois, ça peut être coûteux quand on passe par le système traditionnel, alors qu'avec une monnaie numérique ou PayPal, beaucoup plus facile.
Ouais, ben si on
Donc,
passe par des trucs comme Western Union, en plus de ça, ben si on envoie de
c'est
l'argent dans
très
des
coûteux.
pays en développement, en fait, moi je vais le dire, c'est même très raciste, Western Union. Les pays de l'Afrique, là, si on veut envoyer de l'argent, ça passe pas. Puis il faut montrer patte blanche, c'est vraiment désagréable.
Oui, puis les frais sont probablement très élevés aussi,
Astronomique,
là.
oui.
Alors,
Oui.
donc c'est ça. Et puis dans ces pays-là, on utilise beaucoup les crypto-monnaies pour justement ce type d'opération. Alors, PayPal a créé sa propre crypto-monnaie. Peut-être juste, une autre petite parenthèse. Le rôle de la banque dans le cas de cette crypto-monnaie-là va être assuré par les chaînes de blocs. Qu'est-ce que ça fait une banque? Bien, la banque est là pour assurer que quand vous faites un transfert d'argent à une personne, vous avez suffisamment d'argent dans votre compte pour la mettre dans le compte de l'autre personne. Quand on n'a pas de banque, qu'est-ce qui nous empêcherait? Parce qu'une monnaie numérique, c'est juste un code numérique, là. Tu sais, on n'a rien de tangible entre les mains, c'est juste un code. Qu'est-ce qui nous empêcherait de payer trois, quatre comptes avec le même code? Le problème a été résolu par les chaînes de blocs. Alors, les chaînes de blocs, ce que ça fait, c'est comme toutes les transactions comptables, des comptes de tout le monde qui utilise la crypto-monnaie sont sur ces chaînes de blocs-là, puis ça, c'est public sur Internet. Alors, si on essayait de payer plusieurs comptes avec le même code numérique, avec la même monnaie, ça serait détecté immédiatement, puis la transaction ne serait pas.
Autorisé. Là, on vient de manquer, on vient de perdre Michel.
Ça, c'est un peu le rôle des... Oui.
Oui. Alors, on disait donc que les chaînes de blocs permettent de valider les transactions, puis si quelqu'un en abuse, ben, ça va être détecté, là, puis la transaction ne sera pas autorisée.
Exactement.
D'accord. Alors, les crypto-monnaies, c'est pas risqué, ça?
Il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont risquées, puis leur valeur fluctue énormément. Là, qu'on pense juste au Bitcoin, qui en ce moment se transige autour de 29 000 $. Il a déjà été à 200 $, mais il a déjà été aussi à près de 70 000 $ américains. Donc on voit que ça bouge beaucoup. Mais la crypto-monnaie de PayPal, le PayPal USD, là, pour US et US, les États-Unis, D pour dollar, c'est une crypto-monnaie qui est dite stable. C'est-à-dire que sa valeur est arrimée à la valeur du dollar américain. Donc, à détenir 1 $ de PayPal, c'est la même chose que détenir 1 $ américain. La valeur fluctuera jamais par rapport au dollar américain. Elle peut fluctuer par rapport à d'autres monnaies, comme le dollar américain le fluctue également. Donc, ça donne une stabilité, à cette monnaie-là qui la rend peut-être plus utile quand on veut faire des transferts et tout. On veut pas que la valeur, si on transfère des bitcoins, on voudrait pas que sa valeur chute lorsque l'autre partie à la transaction va l'utiliser, par exemple, pour avoir ses bitcoins.
D'accord. Mais ça, c'est pas la seule crypto-monnaie qu'on dit stable.
Donc, il y en a plusieurs. Mais juste pour vous montrer, des fois on dit stable, mais c'est pas si stable. Il y en a une crypto-monnaie qui s'appelait Terra, qui il y a à peu près un an a fait faillite. Elle s'est complètement effondrée. Puis elle était supposément stable par rapport au dollar américain. Mais ce qui arrive, c'est que pour être par rapport au dollar américain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque fois qu'on donne 1 $ de cette monnaie-là, on peut l'échanger contre 1 $ américain. Mais pour que l'organisation qui a émis, là, qui a créé la crypto-monnaie puisse respecter ça, il faut qu'elle ait des réserves suffisantes de dollars américains pour supporter sa crypto-monnaie. Puis lorsqu'il y a de l'incertitude sur la taille des réserves, bien là, les gens peuvent paniquer puis dire, oups, là, je ne suis pas sûr que la crypto-monnaie est bien assurée ou stable, et puis je vais vendre ma crypto-monnaie. Puis là, dans le cas Terra, le prix s'est effondré, puis elle a fini par disparaître, là. Donc, PayPal, on nous dit que les réserves vont être là. Elles sont déposées auprès d'une tierce partie, puis à chaque mois, il va y avoir un rapport audité par des firmes indépendantes, là, qui va certifier que les réserves sont là. Puis PayPal a certainement les reins solides d'une grosse compagnie là, pour pouvoir supporter ça, mais on verra bien.
Oui. Alors, la semaine dernière, on s'était dit, on va peut-être parler de Michael Sabia, le nouveau président directeur général d'Hydro-Québec. Alors, échange avec ses nombreux employés depuis 6 semaines qu'il est en poste, il leur a adressé une lettre.
Oui, donc dans le journal de Montréal, on parle de la qui a été adressée. Bien.
Oups, ça bloque un petit
Non,
peu.
c'est
Ouais,
cinq grandes.
on va reprendre parce que
Oui.
ça a bloqué encore un petit peu. Je pense que.
Ah, je suis
Non,
vraiment
non, mais je pense que
désolé.
WhatsApp nous fait des siennes. Ça
Bon.
appartient à. Je sais pas s'ils coupent les médias sur WhatsApp aussi. Ça appartient quand même à la même compagnie, à Meta. Mais bon, continuons. Donc, une
Oui,
lettre
c'est ça.
adressée aux
On pourrait en
employés.
parler. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle à ce sujet-là
Oui, il y
aujourd'hui,
a une
là.
poursuite là, qui est intentée par,
C'est
entre
ça.
autres, Radio-Canada et d'autres médias là,
Une plainte, c'est ça, une plainte au bureau de la
Tout à
concurrence.
fait. Revenons à Michael Sabia, donc une lettre qu'il
Bon.
a envoyée à ses employés, 5 points dans cette lettre.
Cinq grandes priorités. Bon, la première, elle va nous faire plaisir, c'est assurer un service fiable et de grande qualité. Donc, ça fait plaisir certainement aux consommateurs. Encourager, deuxième, encourager les clients à considérer l'hydroélectricité comme une ressource précieuse. Bon, ça, faudra voir comment ça va être mis en place, mais je pense que c'est important également. Ensuite, identifier et entreprendre les meilleurs projets de développement, c'est une autre priorité. Puis, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, puis on ne sait pas tout exactement ce qui s'est passé, mais c'est peut-être là où ça a chopé entre le gouvernement et Sophie Brochu préalablement, là, qu'elle a démissionné là, sur un peu la direction que Hydro devrait prendre quant à ses grands projets de développement.
Ouais.
Ensuite, quatrième point, bâtir de nouveaux partenariats avec les communautés autochtones. Bon, une grande partie du développement se fait sur des territoires dans le nord du Québec où les communautés autochtones sont très présentes. Donc, ça, c'est certainement important aussi. Puis ensuite, faire d'Hydro-Québec une organisation agile et innovante.
Bon,
Rien de
ben
moins.
c'est ambitieux tout ça.
Oui, c'est ambitieux. Peut-être on pourrait conclure comme économiste. Moi, celui que, bon, il y a beaucoup. Un point qui m'interpelle, c'est encourager les clients à considérer l'hydroélectricité comme une ressource précieuse. Bon, les méchants économistes, en guillemets, on se dit, ben, la façon de faire ça, c'est s'assurer qu'on tarife l'hydroélectricité à un bon prix. Et si on la tarife, pas suffisamment, de façon suffisamment, élevée, comme je crois que c'est le cas au Québec, là, on est content que notre hydroélectricité n'est pas chère, mais en même temps, ce que ça fait des gaspillages, là. C'est qu'on en consomme peut-être trop, là.
Ouais. Ouf, ça a coupé
Je pourrais en
encore.
consommer moins.
Ouais. Donc, c'est ça,
Oui, donc
c'est
on pourrait.
de ça pourrait ça, et ça risque d'être problématique parce que des gens vont aimeraient pas ça qu'on augmente les tarifs d'hydro.
Ben, c'est ça, parce que ça devient politique. Là, on a la Régie de l'énergie qui intervient dans le prix pour déterminer les prix de l'hydroélectricité, mais le gouvernement a toujours son mot à dire, puis des fois, ça fait l'objet de promesses électorales. Donc, ça devient du ressort du politique également. Donc, ça va être à suivre ce qui va arriver avec ça.
Oui, on va lui souhaiter bonne chance. Michel Poilievre,
C'est ça.
notre anachronique économie, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.